Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, demain, lundi 12 septembre, la Sainte Église célèbre la fête du Saint-Nom de Marie. La date du 12 septembre était déjà connue dans l'Église. Elle rappelait la première victoire du rosaire remportée à Muret en 1213 sur les princes du Languedoc, qui soutenait l'hérésie manichéenne, véritable cancer qui rongeait l'Église et la société. L'armée catholique, composée de 800 chevaliers, commandée par Simon de Montfort, se trouvait en face de 34 000 ennemis. Autant dire que la défaite catholique était humainement inévitable. Saint Dominique monta alors avec le clergé et le peuple dans l'église de Muret et il fit prier à tous le rosaire. La victoire des chevaliers fut fulgurante. Les chroniques de l'époque relatent que les ennemis de la religion tombaient les uns sur les autres, ainsi que les arbres de la forêt sur la cognée d'une armée de bûcherons. Les catholiques n'eurent que 8 tués, peut-être d'ailleurs des chevaliers qui n'étaient pas en état de grâce, tandis que leurs ennemis eurent 10 000 morts, dont le roi d'Aragon. Les princes du Languedoc étant vaincus, la région pouvait être de nouveau évangélisée, et elle le fut par la prédication des mystères du rosaire. Nous n'avons pas le temps de réfuter ici les contre-vérités, les calomnies qui ont été répandues sur cette croisade des Albigeois, qui avait été décidée par l'Église, après un siècle de prédication pacifique et de patience, résistant même aux princes chrétiens qui trépignaient. Nous avons répondu aux objections principales dans un numéro récent du Sel de la Terre. En tout cas, cette victoire qui ouvrait une litanie non terminée encore de triomphe de Notre-Dame, cette victoire ne donna pas occasion à une commémoration liturgique. Il en fut autrement en 1683. À l'appel des protestants de Hongrie, une armée de 200 000 Turcs et Tartares, sous la conduite de Kar Mustafa, grand vizir et gendre du sultan, envahissait l'Autriche, faisant de grands ravages et exerçant des cruautés inouïes dans les endroits occupés. En peu de temps, cette armée fut sous les murs de Vienne, la capitale de l'Empire autrichien, et y mit le siège. Il faut bien comprendre que, géographiquement, Vienne est le verrou de l'Europe. Si Vienne tombe, l'Europe est envahie. Pie XII le rappellera d'ailleurs lorsqu'en 1955, l'Autriche faillit tomber sous le joug communiste et que le pays sera délivré grâce à une autre victoire du rosaire, pacifique cette fois, puisqu'aucune goutte de sang ne fut versée. Évidemment, on préfère toujours cela, mais les hommes étant ce qu'ils sont, ce n'est pas toujours possible. En 1683, le but du sultan était de forcer le verrou de Vienne pour déferler sur l'Italie et s'emparer de Rome et ainsi détruire la foi catholique. La victoire de Lépante, un siècle auparavant, n'ayant pas été poussée jusqu'au bout, malheureusement, eh bien les voilà qui revenaient. À Lépante, c'était par mer, maintenant, c'était par terre. Le secours de tous les princes catholiques fut sollicité. La plupart envoyèrent seulement des aides financières. Louis XIV ne bougea pas, ce n'est pas à l'honneur de son règne, une fois de plus. Restait le roi de Pologne, Jean III Sobieski, qui était d'ailleurs membre de la confrérie du Rosaire. Il se laissa convaincre par le pape Innocent XI, qui en même temps ordonnait qu'on prît le rosaire dans tous les couvents, monastères et églises de Rome, exemple qui fut suivi en divers lieux de l'Europe. En la fête de l'Assomption 1683, Sobieski quitta la Pologne avec son armée et se dirigea vers Vienne à marche forcée. Il avait 24 000 hommes, en face il y en avait 200 000. Le 12 septembre au matin, il arrivait devant la ville de Vienne, assiégée par les Turcs, et qui était sur le point de succomber. Avec toute son armée, il assista à la messe, qu'il servit lui-même, ayant les bras en croix pendant une partie du sacrifice. Il communia, puis il arma son fils chevalier. « Marchons maintenant sous la protection de la Mère de Dieu, s'écria-t-il, vive Marie !» En quelques heures, l'armée turque, frappée de panique, était en déroute, ayant perdu la moitié de ses effectifs. Le 13 septembre, Jean Sobieski fit son entrée triomphale dans Vienne. Il alla se prosterner devant la statue de Notre-Dame de Lorette, offrit son casque et son épée à Notre-Dame, et il entonna lui-même le Te Deum. L'Europe était sauvée une fois de plus. La victoire de Lépante avait donné lieu à la fête du Très-Saint-Rosaire. En action de grâce pour la victoire de Vienne, le pape Innocent XI fit du 12 septembre le jour de la fête du Saint-Nom de Marie. Pourquoi ce titre? Eh bien, parce que c'était l'invocation du nom de Marie à travers le rosaire qui avait sauvé la chrétienté une fois de plus. Mais que veut dire ce nom? La question se pose, puisque les noms qui viennent de la Sainte Écriture n'ont pas été donnés au hasard. Dans la Bible, le nom indique une dignité, il signifie une fonction, une mission spéciale. Ainsi, après sa lutte mystérieuse toute une nuit avec l'ange du Seigneur, Jacob reçoit le nom d'Israël, qui veut dire « prince avec Dieu ». Indiquant par là qu'ayant reçu de Dieu une force qui lui avait permis de lutter avec un ange, il était comme un prince de la cour céleste et n'avait rien à craindre des hommes. Lorsque notre Seigneur voulut faire de Simon le chef de son Église, il lui donna le nom de Pierre, qui signifiait que son apôtre serait la pierre de fondation de la future Église. Alors que veut dire le nom de Marie ? Car il vient lui aussi des Écritures. Saint Luc, dans l'Évangile, à propos de l'Annonciation, écrit « Le nom de la Vierge était Marie ». Nom que ses parents, Saint Joachim et Sainte Anne, avaient dû lui donner par inspiration divine. Les auteurs spirituels, pour résoudre la question, ont cherché l'étymologie du nom de Marie. Ils ont d'abord fait remarquer qu'en latin, Maria, c'est le pluriel de mer, non pas la mer qui enfante, mais l'océan, les océans. Au début de son traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort écrit « Dieu le Père a fait un assemblage de toutes les eaux qu'il a nommées la mer. Il a fait un assemblage de toutes ses grâces qu'il a appelées Marie. » Ce nom de Marie signifie donc d'abord la plénitude de grâce qui a envahi l'âme de Notre-Dame au premier instant de sa conception. Pour préparer un digne tabernacle au Verbe de Dieu, la Sainte Trinité a comblé l'âme de Marie d'une abondance de grâce telle qu'elle dépassait déjà ce que sera, à la fin du monde, la grâce de tous les anges et de tous les saints pris ensemble. À tel point, écrivait le pape Pie IX, que nulle autre pensée que celle de Dieu ne peut en mesurer la grandeur. Mais le nom de Marie signifie aussi amertume. Cet océan de grâce qui emplissait l'âme de Notre-Dame était en même temps un océan d'amertume. Il ne faut pas oublier ici que la grâce sanctifiante en notre Seigneur Jésus-Christ était comme un poids qui l'attirait vers la croix pour laquelle il était venu sur terre afin de nous sauver. Toute grâce qui arrive aux créatures a les mêmes propriétés, puisque c'est notre Seigneur qui en est la source. La grâce nous conduit à la croix pour que nous arrivions à la gloire. Alors Notre-Dame, qui reçut une si grande abondance de grâce à sa conception, était prédestinée à passer par des croix proportionnées à cette plénitude. Lorsqu'elle dit son fiat à la parole de l'archange Gabriel pour coopérer à l'œuvre de notre salut, elle comprit qu'elle entrait dans un océan de douleur qui la conduirait au pied de la croix, mais pour obtenir en récompense une gloire et un bonheur proportionnés. Notre-Dame de toute grâce était en même temps Notre-Dame des sept douleurs. Mais le nom de Marie signifie aussi l'étoile de la mer. La liturgie a repris cette signification dans un hymne célèbre, l'Ave Maristella, salut étoile de la mer. Qui que vous soyez, s'exclamait saint Bernard, qui dans le flux et le reflux de ce siècle avait conscience de marcher moins sur la terre ferme qu'au milieu des tempêtes et des tourbillons, ne détachez pas vos yeux de l'astre splendide qu'est la Vierge Marie. La Vierge Marie est le guide de notre vie. Alors maintenant que nous connaissons un peu mieux ce que signifie le nom de Notre-Dame, disons quelques mots maintenant sur nos devoirs envers le nom de Marie. Ils peuvent se résumer à trois. Honorer, réparer, implorer. Tout d'abord, nous devons honorer le nom de Marie, parce que c'est le nom de la Mère de Dieu, de la co-rédemptrice, de notre Mère et de notre Reine. L'honorer en célébrant ses fêtes tout au long de l'année. L'honorer trois fois par jour en récitant l'Angélus, qui est le grand rappel de ce jour où elle a fait venir le Sauveur du monde sur cette terre. L'honorer en récitant ses litanies, qui sont la longue énumération de tous ses titres de gloire. L'honorer en chantant ses cantiques, en nous enrôlant dans ses confréries, comme la confrérie du Très-Saint-Rosaire, fondée par saint Dominique. Mais nous avons aussi le devoir de réparer les outrages faits au nom de Marie. Accepteriez-vous qu'on insulte votre mère? Alors notre Seigneur, qui est un bon fils, ne supporte pas que des hommes refusent consciemment de passer par sa mère pour aller à lui, qui sont donc consciemment indifférents à Notre-Dame, ou même qui l'outragent. Sœur Lucie de Fatima dit que c'est une faute qui blesse particulièrement le cœur de Jésus et pour laquelle il ne trouve en lui-même aucune inclination à pardonner, lui qui pardonne tout. Sœur Lucie dit même que c'est un péché que l'Évangile appelle le péché contre l'Esprit Saint, péché dont notre Seigneur dit qu'il ne sera remis ni dans ce monde ni dans l'autre. Évidemment, la Vierge Marie étant le seul chemin pour aller à notre Seigneur, refuser consciemment de l'emprunter, c'est se perdre, comment faire autrement? Mais la Vierge Marie, qui est mère de miséricorde, a pitié de ces pauvres âmes. Elle a donc obtenu de son Fils qu'il lui accorde la conversion de ses pécheurs par l'intermédiaire de la pratique de la communion réparatrice des premiers samedis. Cette communion a pour effet de réparer les blasphèmes et outrages commis contre Notre-Dame, donc d'obtenir le salut de ceux qui ont fait ces péchés. Et réparer les offenses faites au nom de Marie est une œuvre si agréable à notre Seigneur qu'il promet le salut à tous ceux qui accompliront cette pratique de la communion réparatrice pendant 5 mois consécutifs. Vous en connaissez les détails, je ne les rappelle pas. Honorer le nom de Marie, réparer les outrages qui lui sont faits. Notre troisième devoir consiste à implorer le nom de Marie. En introduisant cette fête dans la liturgie, l'Église a voulu rappeler au peuple chrétien combien puissante était l'invocation à Notre-Dame. Si elle a obtenu la victoire sur des armées entières prêtes à nous envahir, combien plus devons-nous espérer en son secours efficace dans tous les besoins, toutes les difficultés qui sont les nôtres aujourd'hui. si s'élève la bourrasque des tentations, si se dressent les écueils des tribulations, regardez l'étoile, appelez Marie, s'écrie saint Bernard. Si la colère, l'avarice, les pensées impures viennent à soulever la barque de votre âme, tournez les yeux vers Marie. Si troublé par l'énormité de vos péchés, vous sentez venir en vous la tristesse et le désespoir, pensez à Marie. Qu'elle soit sans cesse sur vos lèvres, qu'elle soit toujours en votre cœur. Pensant à elle, vous ne vous égarerez pas, soutenu par elle, vous ne tomberez pas, guidé par elle, vous arriverez sûrement au but. Et ainsi expérimenterez-vous en vous-même le bien fondé de cette parole que le nom de la Vierge était Marie. L'invocation du nom de Marie la plus efficace est certainement celle qui se fait par la prière du chapelet. D'abord, c'est Notre-Dame qui nous l'a donnée elle-même par saint Dominique. Et en ces derniers temps, à Fatima, la Vierge Marie nous a présenté le chapelet comme le dernier moyen de salut donné au monde avec la dévotion à son cœur immaculé. Elle a dit « il n'y en aura pas d'autre ». Pour bien le prier, c'est-à-dire pour ne pas le prier de manière mécanique, commençons par nous mettre en présence de Notre-Dame et revenons à cette présence lorsque nous nous apercevons que nous avons des distractions. Passons d'un mystère à l'autre pour le méditer ou simplement contempler la scène, afin de nous en imprégner, parce que ces mystères de la vie de Jésus, Marie, Joseph sont les meilleurs exemples de vie chrétienne. Et ayons dans notre âme une prière de supplication quand nous récitons les « Je vous salue Marie ». Il n'est pas nécessaire d'être attentif à chaque mot du « Je vous salue Marie ». Ce qu'il faut surtout, c'est être dans cette scène représenté par un mystère et avoir dans notre cœur cette prière de supplication. Le chapelet, dit sœur Lucie, de la part de Notre-Dame, a aujourd'hui une efficacité nouvelle, proportionnée à nos besoins actuels, de telle sorte qu'il n'y a aucun problème, si difficile soit-il, corporel, c'est-à-dire la santé, ou surtout spirituel, se référant à la vie personnelle de chacun de nous, de nos familles, des familles du monde ou des communautés religieuses, il n'y a aucun problème que nous ne puissions résoudre par la prière du rosaire. Ne passons pas une journée sans réciter notre chapelet. On peut même le fractionner en dizaines tout au long du jour. On a tout le temps, tout le monde peut réciter son chapelet tous les jours, en 24 heures. Prions-le seul, en famille, en groupe. Vous êtes au courant aussi de ces chapelets publics qui ont lieu tous les mercredis dans toute la France depuis le mois de janvier et qui attirent toutes sortes de personnes. C'est inexplicable naturellement, c'est la Sainte Vierge qui fait venir ces gens. Parce qu'elle a besoin de ces prières pour agir sur notre monde, agir sur notre pays. Intéressant de voir d'ailleurs que ces chapelets publics, ils nous viennent de l'Autriche. Un père de famille traditionnaliste français, mais enfin ça vient de l'Autriche. Eh bien, c'est notre seul espoir aujourd'hui pour notre pays. Même s'il n'y a pas grand monde dans certains endroits, peu importe, le bon Dieu ne regarde pas le nombre. Il faut surtout que ces chapelets continuent. Tout au cours des siècles, depuis saint Dominique, le chapelet a donné les grâces aux fidèles pour franchir victorieusement les épreuves de leur temps. Du haut du ciel, de nouveau, aujourd'hui, la Vierge Marie nous tend le chapelet. Saisissons-le. Par lui, nous accomplirons tous nos devoirs. Par lui, nous surmonterons toutes les difficultés et nous nous retrouverons au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.